Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Benjamin Coe était un contrôleur de gestion à la vie austère. Avant le confinement, il côtoyait uniquement ses collègues de travail et les membres de ses clubs d'échecs et de Scrabble, à la moyenne d'âge canonique.
Son appartement, c'était l'appartement d'un célibataire.
Léa Forest, avocate de Benjamin Coe.
Qui n'avait pas d'appétence particulière pour peut-être la décoration, c'était extrêmement bien rangé, à son habitude. Mais c'est surtout ça qui marquait, c'était que c'était très rangé.
Éric Mazot, avocat général.
Moi, j'ai vu des photos, hein, évidemment, de cet immeuble, et notamment le tiroir de la cuisine dans lequel il avait rangé l'arme du crime, après l'avoir nettoyée. Et là aussi, encore quelque chose de glaçant, dans la mesure où l'arme rejoignait les autres instruments de cuisine qui étaient rangés. Les cuillères, trois cuillères, étaient enchâssées les unes dans les autres. Les fourchettes, trois fourchettes, étaient posées sur le dos, les pointes à l'envers. Les couteaux, trois couteaux, étaient déposés, la lame, sur le même côté. Et se dire que l'arme du meurtre ait été reposée dans ces conditions aussi précises, avant que l'on reprenne une partie de Scrabble, c'est très impressionnant. C'était véritablement un univers millimétré. Pas de superflu, aucun superflu, aucune décoration. Monacal, enfin spartiate, plus exactement. Rien ne ressortait de particulier, sinon les trophées gagnés au Scrabble et aux échecs.
Code B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Coe présente dans tout son parcours une incapacité à mettre en forme et à traiter la conflictualité et l'agressivité. Il souffre d'une grave problématique d'affirmation de soi, en particulier dans ses relations à autrui et dans l'expression de ses désirs et de son mécontentement. On peut penser que les faits apparaissent comme la première tentative d'affirmation conflictuelle et agressive de Benjamin Coe. La violence de la décharge par l'acte semble ainsi le produit d'une accumulation de frustration.
Son histoire personnelle, on la connaît finalement que très peu parce qu'il a été assez taisant sur ça tout le long de l'instruction parce qu'il considérait que son histoire personnelle n'avait absolument aucune influence sur les faits et qu'elle n'intéressait personne. Et il se demandait un peu pourquoi on venait lui poser ces questions-là. L'avocate que je suis lui rappelait que c'était parce qu'il fallait, pour bien juger quelqu'un, prendre en considération sa vie et son évolution.
C'est un enfant qui a été adopté à 6 ans.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Avant cela, il vivait en Corée. Après l'adoption, on ne trouve aucun élément traumatique. Avant l'adoption, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce que, et je pense que c'est vrai, il dit qu'il n'a aucun souvenir. Or, et ça tout le monde le sait, pas besoin d'être psychiatre, on a des souvenirs avant l'âge de 6 ans. Hein. Ça commence vers les 3 ans, on va dire. Hein. Donc, s'il n'a pas de souvenirs, c'est que les souvenirs étaient peut-être très mauvais et qu'il n'a pas pu faire autrement que de les refouler. Quand je parle de refoulement, c'est pas quelque chose de conscient. Son cerveau le protège de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il y a eu des éléments traumatiques, ça a freiné son développement psycho-affectif. Et je pense que toute sa vie, il s'est protégé de ça en essayant d'avoir le moins de relations possibles avec les autres.
Code B17, enquête de personnalité d'Axel Rocher. Benjamin Coe n'a jamais souhaité identifier sa famille biologique. Madame Coe, sa mère adoptive, rapporte qu'à l'arrivée de Benjamin Coe, elle avait relevé certaines cicatrices sur son corps.
La famille habitait dans le Nord, après ils sont venus à Lyon. Le papa est décédé d'un cancer. La maman est toujours en vie, elle habite aussi dans la région. Et ensuite, Benjamin Coe a fait des études. C'était un élève brillant, il était très fort dans tout ce qui est logique, mathématiques, physique, etc.
Quelqu'un qui a rapidement brillé par ses qualités intellectuelles et scolaires. Il est quand même titulaire d'un master 2 et il a intégré une école de commerce à Dijon. En sortant major de sa promotion, il a rapidement obtenu un travail dans une entreprise comme contrôleur de gestion et il avait une vie essentiellement centrée sur le travail. La vie de l'accusé était d'une simplicité absolue. Hein. Le Benjamin Coe, c'était pas d'amis, pas de petite amie, une fois de temps en temps, une visite à sa mère, mais il ne sortait pas finalement de cette activité sociale que l'on pourrait qualifier d'extrêmement limitée. La réalité a démontré que oui, il était effectivement discret, n'élevait pas la voix et autres, mais il était quand même très réactif par rapport au bruit que l'on peut générer dans un appartement, bruit auquel il était très sensible.
Benjamin Coe mène une vie plan-plan, sans vague, et il entend que ses voisins en fassent autant. Pendant le confinement, il devient très procédurier. Il dénonce toutes les nuisances sonores des voisins. Il écrit plusieurs fois à la régie immobilière qui gère son immeuble.
Finalement, il n'a de relation qu'à travers les plaintes multiples, parce qu'il est très procédurier, qu'il va déposer auprès de la régie, auprès de, en indiquant qu'un tel fait trop de bruit, que c'est insupportable, et autres. Il est quand même relativement particulier et relativement asocial, puisqu'il va jusqu'à proposer de l'argent à la régie pour faciliter l'expulsion d'un locataire supposé être bruyant.
Monsieur Coe, il est très attaché aux règles et aux droits et il faut finalement que tout soit carré et que tout aille dans le bon sens. On peut dire qu'il est procédurier, rigide et tout, mais c'est ce qu'on demande à tout le monde pour ne pas en arriver justement à des actes comme ça. C'est d'essayer de régler les choses quand un trouble du voisinage arrive, en envoyant des recommandés, en appelant les forces de l'ordre si c'est trop un soir, mais sûrement pas en descendant chez le voisin avec un couteau. Donc lui, il a essayé de passer par ces étapes qui sont, à mon sens, tout à fait normales. Et ce soir-là, c'était trop. Enfin, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est pour ça qu'il est descendu.
L'enquête de personnalité révèle que Benjamin Coe était un contrôleur de gestion à la vie très austère. Il côtoyait seulement ses collègues de travail et les membres de ses clubs d'échecs et de scrabble.
Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat. Très vite, ce profil qui est complètement atypique et encore peut-être plus dans un milieu carcéral. Enfin, ça a été, à mon avis, très compliqué pour lui, même s'il ne s'est jamais, mais jamais plaint de sa détention.
Léa Forest, avocate de Benjamin Coe.
Il a été très vite victime de menaces, de violences, qu'elles soient morales ou physiques. Très vite, il a été placé à l'isolement. Et c'est sur sa volonté à lui qu'il a souhaité y rester tout le long de son incarcération. Isolement veut dire absolument aucun contact, des promenades qui sont dans une cour qui sont plus petites que des cours classiques et qui sont pas en communauté, donc on se balade tout seul, on vit tout seul et on ne voit personne à part les surveillants qui ouvrent la porte pour donner à manger. Il était même question à un moment donné qu'on le sorte de l'isolement parce que ça devenait dangereux finalement pour sa santé mentale, hein, c'est la prison qui a voulu le faire et moi j'ai été obligée conformément à son mandat d'intervenir pour qu'il reste placé à l'isolement.
3 ans après le meurtre de Romane Dufour, Benjamin Coe est renvoyé devant la cour d'assises du Rhône. Il a alors 41 ans.
Comment on fait pour préparer M. Coe? C'est une question que Je me pose toujours, enfin finalement j'ai arrêté de me la poser parce que la réponse est simple, c'est qu'on ne le prépare pas. Lui, son état d'esprit avant les assises, c'est qu'il s'en fiche complètement de son sort, donc aucune raison de se défendre. Je pense que si l'avocat n'était pas obligatoire devant une cour d'assises, il y serait allé sans avocat. Après, je lui ai donné quand même 2-3 conseils et je pense que les 2-3 conseils que je lui ai donnés n'ont absolument pas été respectés. Il a même fait tout le contraire pour saboter un peu mon travail.
Faites entrer l'accusé.
Il a une quarantaine d'années.
Éric Mazot, avocat général.
Ses vêtements n'attirent pas particulièrement d'attention. Il est handicapé visuel, il boite également. On ne remarque pas cet homme. C'est sa particularité, on ne le remarque pas.
Jean-François Julien, avocat de la famille de Romane Dufour.
Lorsqu'on arrive devant la cour d'assises, le président lui dit « Monsieur, vous pouvez enlever votre masque ». Il va refuser et il va presque engueuler le président en disant « Mais si vous avez envie d'attraper le Covid, vous, moi je ne veux pas ». Vous voyez le type de personnalité dans laquelle vous êtes. Vous avez quelqu'un qui est totalement effacé, qui va passer ensuite, qui peut passer dans un truc où il va vous engueuler parce que vous ne respectez pas une règle. Et lui, il estimait que le président de la cour d'assises ne respectait pas une règle, donc il lui dit « Vous ne respectez pas la règle ».
Mesdames et messieurs, la cour.
Il a fini par m'écouter parce que j'ai pris à part à un moment une suspension d'audience et je lui ai dit que là, ce serait vraiment bien. Mais je lui ai toujours dit que c'était pour me faire plaisir et il le faisait. Et ça marchait que comme ça. Tout ce qu'il a fait pendant le procès d'assises que je lui ai conseillé, c'est parce que j'ai trouvé, je pense, le deuxième jour du procès, le premier jour, mais fin de journée, en lui disant « S'il vous plaît, faites-le pour moi. Vous voyez, je rame un peu pour vous, je donne tout ce que j'ai pour vous, alors faites-moi plaisir. » Quand j'en parle maintenant encore de ce procès, j'ai l'impression parfois de parler contre lui. Mais c'est justement tout le paradoxe avec M. Coe, c'est qu'en fait, pour le défendre, il fallait appuyer sur des points que lui ne voulait pas forcément entendre. Mais j'avais la liberté de le faire et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que sinon je n'aurais jamais pu le défendre de cette manière-là et d'en parler encore aujourd'hui comme ça. Mais en tout état de cause, oui, c'était le défendre malgré lui. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Tout le long du procès.
Docteur Cantarino, qui était l'expert psychiatre, n'a pas déposé, je crois qu'il était en vacances. L'expert psychologue a déposé, il disait des choses extrêmement intéressantes. Malheureusement, on n'a pas pu développer. Pour tous les acteurs du procès, c'était extrêmement frustrant. Votre émission, c'est cette cote B, et cette cote B, on nous l'a volée pendant le procès d'assises.
Code B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Si Benjamin Coe présente des défenses psychiques explicites de mise à distance de ses vécus émotionnels, on peut également s'interroger sur l'éventuelle nature autistique de certains de ses traits de fonctionnement interne. On note en effet dans le parcours de Benjamin Coe une difficulté communicationnelle et relationnelle durable associée à un fort isolement et un hyper-investissement intellectuel. Une désaffectivité qui peut être liée à des centres d'intérêt limités.
Une phrase qu'il a prononcée en réponse à une question du magistrat instructeur qui lui demandait « Mais pourquoi reprendre votre partie de Scrabble ?» Il a répondu « Que voulez-vous que je fasse d'autre ?» Et moi, à ce procès, je comprenais à plein l'expression « être réduit au silence ». Parce que c'est très exactement ça ce qui s'est passé. C'est glaçant. Cette jeune femme que l'on décrivait comme étant... un vrai soleil, la vie, quoi, a été, à proprement parler, réduite au silence par quelqu'un qui s'est rassis à sa table, qui a repris sa partie de Scrabble et qui n'en a pas bougé alors que les sirènes de police retentissaient dans tout le quartier. L'expert psychologue avait retenu cette incapacité à gérer chez l'accusé une situation conflictuelle. La cour est restée un petit peu sur sa faim. J'ai fait quelques recherches. En tapant deux mots sur un moteur de recherche, assise et bruit, on s'aperçoit que énormément, en fait, de situations identiques amènent aux assises. Donc vous avez divers titres que j'avais relevé dans la presse, un peu au débotté. Très nombreuses affaires criminelles. Hein, je me relis, le pilote de quad faisait trop de bruit, le procès du meurtrier présumé commence. Triple meurtre dans un hôtel, il faisait trop de bruit. Son voisin faisait trop de bruit, il l'a massacré à la batte de baseball. Excédé par le bruit, il tue son voisin à coups de fusil. Énervé par le bruit des travaux, un septuagénaire tue le propriétaire de son appartement. Un octogénaire poignardé à mort pour avoir demandé à son voisin brillant de se calmer. Sans pouvoir les quantifier, ce genre d'affaires finalement est assez fréquent.
Dès que quelque chose l'ennuyait, il était focus dessus. Il ne pouvait pas s'en détacher. C'est comme la goutte d'eau qui tombe et qui vous gêne au fur et à mesure, alors que personne ne va l'entendre, mais il y a cette goutte qui tombe et qui est lancinante et qui va vous taper sur le système nerveux. Il fonctionnait exactement comme ça, je suppose qu'il fonctionne toujours comme ça. C'est là, il entend cette musique. Au fond, je vous garantis que pour l'entendre, il faut avoir une ouïe très fine, mais ça le gêne, ça le perturbe. Il explique très bien en disant « Moi, quand j'écoute la musique, pour voir si je ne gêne pas mon voisin, je vais sortir et je ferme la porte. » Et c'est ce qu'il a déclaré devant la cour d'assises. Et ça vous explique tout.
Maître Forest, vous avez la parole pour la défense de Benjamin Coe.
Les éléments importants, je crois que ça a été de recentrer le débat sur ce dont on avait parlé, à savoir vraiment étudier les faits à l'aune de la personnalité de Monsieur Coe. J'ai été très frustrée des expertises sur le plan de sa personnalité et par mon inaction. Je l'ai regretté à la préparation du dossier parce que j'ai pas pris l'ampleur de cette expertise, notamment psychologique de Monsieur Renaud, qui m'émettait des points rouges sur d'éventuels troubles autistiques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pudeur, de la honte, et surtout de ne pas trouver l'utilité de parler de lui. Il n'y a pas d'utilité à ça, et il est là pour être condamné. Il a quand même dit devant la cour d'assises, je sais que ce n'est pas possible parce que mon avocat me l'a dit, mais si je pouvais, je vous demanderais de me condamner à perpétuité.
Avant que la cour ne se retire pour délibérer, comme c'est l'usage, Benjamin Coe a la parole en dernier. Je mérite la perpétuité. J'ai détruit la vie de plusieurs personnes. Et si un jour la liberté m'est rendue, alors c'est que la justice est mal faite. Finalement, Benjamin Coe n'est pas condamné pour meurtre, mais pour coup mortel. Il écope de 14 années de prison. Et il ne fait pas appel. C'était Au-delà te raconte version Code B. Guillaume Maury en est le rédacteur en chef, enquête de Marion Douzé, réalisation de Guillaume Vasseau.
Retrouvez On-delà raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.